Bienvenue, vous êtes sur Radio Pont, vous nous écoutez sur 97FM ou sur internet www.radiopont97fm.com. Aujourd'hui, nouvelle chronique, permaculture, jardin et compagnie, pour un nouveau chroniqueur. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ludovic Blaisin et je suis votre guide jardinier permaculteur.
On plante des choux, est-ce que ça dit? Je fais pas le mou, ce sera les radis. Dans mon hood, on pratique la permaculture. Une tech de ouf, inspirée de la nature. Insulte pas la terre, mec c'est ma mère. Observe-la bien, jamais plus t'auras faim. La paille et la forêt ont été mises dans le coup. Les fourmis et les abeilles ont toutes rejoint notre crew. La seule limite à ta production, mec, non que c'est pas le site, c'est ton imagination.
Nous allons nous retrouver chaque mois pour parler de permaculture. Permaculture, un mot que l'on entend de plus en plus souvent, mais dont on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. On entend souvent parler de jardinage, de culture sur but, de paillage, mais la permaculture, ça n'est pas que ça. C'est avant tout une vraie philosophie de vie qui s'intègre dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Ainsi, à chaque nouvelle chronique, je développerai pour vous un thème en particulier de la permaculture. Il pourra s'agir de jardinage ou d'agriculture, bien sûr, mais aussi d'habitat, d'énergie, d'économie, de médecine, de relations humaines, etc. Comme vous l'avez compris, le choix est vaste. Pour enrichir le thème et mettre en avant les initiatives qui lui sont liées, j'essaierai d'avoir un ou plusieurs invités qui témoigneront de leur expérience. Et le plus possible, des personnes locales, proches de chez nous, bien entendu. En fin de chronique, je vous présenterai un agenda des événements à venir en rapport avec la permaculture, et si possible, des événements locaux également. Enfin, avant de nous quitter, je vous proposerai une sélection de livres, de films et de documentaires qui pourront combler un peu plus votre curiosité sur la permaculture.
Alors rejoins le toilette, sèche pour moi.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde sa carotte et tout le monde son poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde son cochon et tout le monde son poney. Et même sans avant, personne ne reste sur le côté.
Et on peigne dans ta gueule, oui on sait recycler. Nous on mixe du tilleul et on bombe dans les prés. Je représente mon verger, j'ai gagné.
Pour cette première chronique, je vous propose en toute logique d'essayer de vous définir ce qu'est la permaculture. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc, la permaculture? Eh bien commençons par dire ce que ce n'est pas. La permaculture n'est ni une secte, ni une religion ou un parti politique. Rien de tout ça, non. Ensuite, le terme, le mot permaculture. Un mot qui, aujourd'hui, n'existe pas encore dans le dictionnaire, et pour cause. Il est le résultat de la contraction de deux mots. Permanent agriculture, en anglais, car le concept nous vient des pays anglo-saxons. Ou en français bien de chez nous, agriculture permanente. Le concept vient des pays anglo-saxons, comme je vous le disais, et plus précisément d'Australie. C'est là-bas que dans les années 70, Bill Mollison et David Holmgren ont modélisé le concept de la permaculture. Mais pourquoi? Et dans quel but finalement? Eh bien, ils sont partis d'un constat simple. Les pratiques agricoles existantes, c'est-à-dire l'agriculture commerciale occidentale et l'agriculture vivrière et villageoise du tiers-monde, n'ont pas d'avenir. La première est grande consommatrice d'énergie, fossile et non renouvelable de surcroît. Elle est mécanisée, destructrice du sol et de sa qualité. La seconde fait des hommes des esclaves et combinée à de l'élevage itinérant, elle laisse un désert là où il y avait des forêts. Leur but était donc d'élaborer un système comme une alternative à ces pratiques. Le premier objectif était de proposer une manière de cultiver qui soit applicable à tout climat, tout type de sol et à toutes les surfaces pour se rapprocher de l'autosuffisance alimentaire. Le tout, bien sûr, sans produits chimiques de synthèse, donc sans engrais, sans pesticides, ou autres traitements chimiques de synthèse, et en utilisant le moins d'énergie et de mécanisation possible. J'ouvre une parenthèse sur l'expression « chimique de synthèse », pour bien faire la différence entre la chimie naturelle et celle créée par l'homme. Regardez autour de vous. Tout est chimique. Toutes les matières qui vous entourent possèdent une formule chimique. Même lorsque vous arrosez vos salades, vous appliquez un traitement chimique. Et oui, rappelez-vous à l'école, la formule chimique de l'eau, H2O. Mais cette forme de chimie-là est naturelle et bénéfique pour vos salades. Alors que si vous arrosez avec un engrais conventionnel, cette chimie est synthétique, car créée par l'homme, non naturelle et polluante pour l'environnement, néfaste pour le consommateur, mais aussi, et on a trop souvent tendance à l'oublier, pour celui qui l'applique en premier lieu, l'agriculteur comme le jardinier. Mais revenons à notre objectif de proposer une manière de cultiver pour se rapprocher de l'autosuffisance alimentaire. En fait, ce modèle existe déjà, et depuis bien longtemps, bien avant même l'apparition de l'homme sur Terre. Il s'agit tout simplement de la nature. La nature n'a jamais eu besoin de l'homme pour produire, et même en grande quantité, ni de lui pour se soigner. Alors, comment définir rapidement ce qu'est la permaculture ? Eh bien, si l'on pouvait définir la permaculture de manière courte et imagée, on pourrait dire que c'est une très grande boîte à outils dans laquelle on viendrait prendre le bon outil au bon moment pour une situation donnée. Oui, mais qu'est-ce que c'est que le bon outil, me direz-vous ? Eh bien, c'est par exemple associer des cultures pour limiter les insectes ravageurs ou les maladies dans le cas du jardinage ou de l'agriculture. C'est réaliser ou rénover son habitat avec des matériaux naturels produits et achetés localement pour le bâtiment. C'est être à l'écoute de soi, avoir une bonne hygiène de vie pour ce qui concerne la santé, etc. Finalement, c'est adopter des attitudes de bon sens en supprimant les impacts négatifs pour l'environnement et même améliorer l'existant. Lorsque l'on cultive une parcelle en permaculture, par exemple, celle-ci s'améliore naturellement d'année en année. La biodiversité augmente progressivement et un équilibre naturel s'installe, comme dans le modèle naturel. Quels sont les avantages de mettre en pratique la permaculture dans sa vie de tous les jours ? Vous l'aurez compris, c'est un choix écologique et durable. Mais c'est aussi un choix financier, car faire son potager pour produire sa propre nourriture ou construire sa maison avec des bottes de paille venant de son voisin de campagne, ça permet de sacrées économies. Et puis, on sait d'où ça vient. On peut réparer soi-même en cas de dégâts sur ce que l'on construit. On se retrouve moins dépendant des autres. Tout cela nous conduit à la notion de résilience, à ne pas confondre avec la résistance. Mais alors, qu'est-ce que c'est encore que ce truc, la résilience ? La définition du dictionnaire est celle-ci. Caractéristique mécanique définissant la résistance au choc d'un matériau. En clair, si vous tapez avec la même force sur un objet en fer ou en plomb, avec un marteau, l'effet ne sera pas le même. Le plomb étant beaucoup plus « mou » entre guillemets que le fer, l'objet en plomb va plus se déformer que celui en fer. Sa résilience est moins importante. Un exemple concret dans le milieu naturel. Le 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl explosait, libérant d'importantes quantités d'éléments radioactifs et provoquant un énorme incendie. La zone est évacuée par les hommes sur près de 2600 km². 30 ans plus tard, une équipe de scientifiques anglais a décidé de faire un état des lieux de l'endroit. Leurs découvertes sont surprenantes. Ils ont rencontré de nombreuses espèces d'animaux sauvages, souvent en voie de disparition ou rares dans cette région. Chevreuils, loups, ours, élans, renards. Cette étude unique montre que la vie sauvage est plus importante qu'avant l'accident nucléaire et illustre la capacité de résilience de la nature après une si grosse catastrophe. La question est maintenant celle de l'impact des radiations à long terme sur ces espèces. Mais là, c'est un tout autre débat. Et pour nous, humains, comment se traduit-elle la résilience ? Alors bien sûr, inutile de taper avec un marteau sur votre voisin pour tester sa résilience. Non. Mais vous allez très vite comprendre la notion de résilience appliquée à notre vie quotidienne. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, le pays était pris de panique à cause d'un risque de pénurie d'essence. Comment se rendre à son travail sans sa voiture ? Aller faire ses courses si on est en milieu rural ? Rassurez-vous, les urbains auront très vite le même problème, car sans essence, et donc sans transport de ravitaillement en nourriture dans les supermarchés, leurs stocks ne permettent pas plus que quelques jours de vente. Moins d'une semaine, c'est sûr. Votre niveau de résilience est lié à votre dépendance envers l'extérieur. Exemple, si vous achetez toute votre nourriture en magasin, si votre seul moyen de locomotion est la voiture, si votre moyen de chauffage ne fonctionne qu'à l'électricité, j'arrête là pour les exemples, mais vous comprenez bien que vous êtes à la merci d'une pénurie, d'une panne ou d'un accident. Votre dépendance envers l'extérieur est très importante et donc votre résilience quasi nulle. En choisissant un mode de vie qui intègre la permaculture, votre résilience, au contraire, augmente considérablement car on se retrouve beaucoup moins dépendant de l'extérieur et ce, dans tous les domaines de la vie. Un exemple ? Eh bien, rappelez-vous la tempête de décembre 1999. avec les énormes coupures d'électricité qui en ont découlé. Pour les foyers chauffés à l'électricité, c'était une catastrophe. Plus de chauffage et pendant une longue période. Si votre maison était chauffée à l'électricité, mais que votre isolation était très bonne, en paille par exemple, et qu'en plus vous aviez un poêle à bois à accumulation, ou également appelé poêle de masse, c'est-à-dire un poêle qui accumule et restitue la chaleur pendant plusieurs heures en consommant beaucoup moins de bois qu'un poêle ou une cheminée classique, votre résilience au niveau de l'habitat et de votre chauffage était excellente. Mais alors concrètement, la permaculture ? Eh bien, la permaculture, c'est avant tout une éthique qui s'articule autour de trois notions. Premièrement, être attentif à la terre, avec un T majuscule. C'est la terre qui est sous nos pieds, mais aussi tout notre environnement naturel. Deuxièmement, être attentif à l'homme, là aussi avec un H majuscule, c'est l'humain. C'est être attentif aux autres, mais également à soi. Car pour être attentif aux autres, il faut d'abord être bien en soi, physiquement comme spirituellement. On a coutume de dire en permaculture que tout se jardine, y compris l'humain. Enfin, dernière notion, partager équitablement, et j'ajouterai entre parenthèses, les ressources et les surplus. La permaculture, c'est aussi 12 principes. Je n'en citerai que certains, comme observer et interagir, créer une production, utiliser et valoriser la diversité, utiliser le changement et y réagir de manière créative. Comme vous le constatez, il n'y a jamais de référence directe au jardinage ou à l'agriculture. On peut appliquer la permaculture dans tous les domaines et c'est ce qui fait sa force et son incroyable potentiel. Elle n'a rien de dogmatique. Elle n'impose pas une vérité absolue. La permaculture propose une solution et cette modestie ne la rend que plus attirante. On peut donc décliner la permaculture sous de nombreux aspects. Bien que souvent associée au milieu rural, la permaculture trouve aussi sa place dans nos villes. On appelle ça la permaculture urbaine. Pour illustrer la permaculture urbaine, je reçois Laurent Daguet. Laurent Daguet, bonjour.
Ouais, bonjour.
Vous êtes membre du collectif Les Incroyables Comestibles de Sainte. Alors naturellement, première question, qu'est-ce que c'est Les Incroyables Comestibles ?
Les Incroyables Comestibles, c'est tout simplement une initiative qui vient d'Angleterre. Elle est née en 2008 parce que y avait un petit village qui s'appelle Torbordon. En fait, les gens étaient touchés par une crise économique assez sévère. Bon, c'est une petite ville de 15 000 habitants et il y a deux dames, Marie Clear et Estelle Brown, qui ont décidé, à travers une démarche participative et citoyenne, de créer les Incroyables Comestibles. Ben, le principe il est assez simple, hein, c'est planter partout où c'est possible. On met des graines dans des bacs, on essaie de mettre aussi des étiquettes pour faire de la pédagogie, en fait, pour montrer qu'on est capable de faire pousser des légumes partout, même dans la ville. Et puis, en même temps, on les invite, bien sûr, à participer, à arroser, et pourquoi pas, à un moment donné, les récolter et puis les partager. Ils sont entièrement gratuits, et c'est ça qui est un peu novateur dans la démarche. Et donc, voilà.
Et quelles sont les valeurs du mouvement ?
Mais les valeurs, ce sont principalement les valeurs de respect de chacun, de solidarité et d'entraide. Et puis on essaie aussi, il y a la responsabilité, l'intégrité, l'éthique, puisque ça tourne principalement sous un concept de gratuité, de don et de partage.
Alors concrètement, dans la ville de Sainte, par exemple, ça se matérialise comment ?
Ben aujourd'hui, on va essayer de planter partout ou là où c'est possible, avec du bon sens et dans le respect des lieux et des personnes, surtout.
D'accord. Et alors donc, le mouvement vient de démarrer, à Sainte en tout cas. Qui peut participer ?
Ben, qui peut participer ? Aujourd'hui, c'est assez simple. C'est un mouvement qui est ouvert à tous, aux hommes, aux femmes, aux enfants... de tout âge et de toutes conditions, c'est pas un problème. On accueille, plus on sera nombreux et plus on pourra se réapproprier notre espace.
Et même si on n'habite pas à Sainte, on peut participer au mouvement ?
Oui, il n'y a aucun problème. Tous les gens sont bienvenus et ça sera avec plaisir qu'on les accueillera.
Donc on peut rejoindre le mouvement à tout moment.
On peut rejoindre le mouvement à tout moment.
Et alors, est-ce que vous êtes à la recherche de certaines choses en particulier, je ne sais pas, par exemple des terrains ou autre chose?
Et aujourd'hui, comme on démarre, on a essayé déjà de commencer à prendre, je dirais, des contacts avec des référents dans les différents quartiers de la ville de Saintes, qui nous permettent en fait de voir si eux, à travers leur expérience et leur action sur le terrain, si ben, on pourrait pas aller chercher des citoyens et justement se réapproprier des parties qui aujourd'hui sont principalement en herbe et qui pourraient être transformées donc en jardin partagé et donc de faire pousser des légumes et puis de se regrouper tous autour de cette action-là. Donc oui, on essaye de bien sûr de trouver des terrains parce que sans terrain, c'est difficile de faire pousser des légumes.
Et donc si des auditeurs souhaitent rejoindre ce collectif, comment faire ?
Bon, on a créé une page Facebook. Donc je pense qu'il y en a pas mal qui vont sur Facebook. Donc qui s'appelle Les Incroyables Comestibles de Saintes. Ensuite, on a aussi un blog qui s'appelle aussi Incroyable Comestible Sainte, ou à travers même le mouvement national, les Incroyables Comestibles, c'est dans plus de 80 villes en France, je crois. Ben, il y en a pas mal en Charente-Maritime, en l'occurrence même nos voisins, Royan par exemple, ont déjà une unité des Incroyables Comestibles, donc ben oui, on invite tout le monde à nous rejoindre.
Et alors, est-ce que les gens peuvent venir assister à une réunion ?
Aujourd'hui, on a prévu de se rassembler le mercredi 6 juillet à partir de 18h30. Ce rendez-vous, on a décidé qu'on allait le faire au jardin public de Saintes, sous le kiosque au milieu du parc. Donc on a déjà un pré-programme établi. Oui, on invite bien sûr les gens à venir à ce rendez-vous.
Bon, en tout cas, ça peut susciter des vocations peut-être pour des gens de Pont qui seraient intéressés pour mettre ça en place à Pont. Déjà venir partager l'expérience de Saintes et éventuellement mettre ça en place à Pont. En tout cas, merci Laurent. Et puis lorsque l'on croisera des bacs ou des cultures directement dans la ville de Saintes, je pense qu'on pensera à vous.
Ben, je vous remercie.
Merci, au revoir.
Au plaisir.
Cet exemple de permaculture urbaine nous montre bien le potentiel de la permaculture. La notion de partage s'exprime pleinement en proposant gratuitement de la nourriture. On va aussi créer du lien social dans les quartiers, entre les habitants. Et rappelez-vous, dans l'éthique de la permaculture, être attentif à l'homme. Enfin, les cultures sont biologiques et naturelles. Et là aussi, rappelez-vous, être attentif à la terre. Elles sont en plus très productives, et sur des petites surfaces. Autre invité, nous allons parler d'agriculture maintenant. Philippe Desbrosses, bonjour.
Bonjour.
D'abord, quelques mots de présentation pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes agriculteur, écrivain, scientifique, presque une vingtaine de livres publiés dont Nous redeviendrons paysans, Combien de catastrophes avant d'agir, Guérir la terre ou Manifeste pour un retour à la terre, Comment assurer la sécurité alimentaire pour demain. Vous êtes docteur en sciences de l'environnement, et aussi le fondateur du centre de formation bio de la ferme de Sainte-Marthe. Ça se passe donc chez vous, en Sologne, à Miancey, où des stagiaires adultes peuvent suivre des formations courtes ou longues à l'agriculture biologique, mais aussi aux filières biologiques, comme la cuisine bio, la reproduction de semences, le jardinage ou travailler autrement. Vous êtes un des pionniers de l'agriculture bio en France, à l'origine de la création de la plupart des mouvements d'officialisation de l'agriculture biologique. Vous êtes en quelque sorte le monsieur bio de l'agriculture française. Un beau parcours. Alors justement, parlons d'agriculture. Aujourd'hui, la surface cultivée en bio en France représente à peine 3% de la surface cultivée totale. La demande des consommateurs est de plus en plus forte. On est obligé d'importer des produits de l'étranger. Et l'on entend toujours l'argument « le bio c'est bien mais c'est cher ». Alors que peut-on répondre, Philippe Desbrosses ?
Moi je vais répondre du tac au tac. C'est pas le bio qui est cher, ce sont les subventions qui vont à l'agriculture industrielle et qui donnent une image faussée du prix de l'alimentation, mais surtout qui pénalise le contribuable qui est aussi consommateur. C'est qu'en fait, on camoufle derrière ce procédé les coûts réels de l'agriculture industrielle, sans parler évidemment des méfaits sur l'environnement et sur la santé. Voilà, donc ça c'est un tour de passe-passe. Donc ce sont les subventions qui coûtent cher. À mon avis, si on arrête les subventions, il faut que les consommateurs qui n'ont pas une grande connaissance du système sachent que si on arrête les subventions de cette agriculture intensive, elle n'existe plus, puisque pour 50% et parfois même 70% du revenu des agriculteurs, ce sont les subventions qui font le revenu des agriculteurs. C'est une sorte de détournement de fonds publics à l'insu des contribuables et des consommateurs qui croient que l'agriculture biologique est trop chère. Mais c'est une façon de l'empêcher de se développer. C'est pour ça que c'est complètement invraisemblable. Alors qu'il y a une demande très forte, c'est une demande de la société civile. Habituellement, les politiques se préoccupent des demandes de la société civile. Et là, contrairement à toutes les habitudes, ils ne s'en préoccupent pas. Ils essaient de tromper, ils essaient de bloquer, d'arrêter cette agriculture industrielle qui nous permettrait de nous passer de tous ces produits chimiques. Vous savez qu'on a remplacé des millions d'agriculteurs dans les champs par les molécules chimiques depuis une cinquantaine d'années. Donc c'est ça, le véritable problème, il est là. Il est dans ce mensonge qui fait croire qu'on pourrait nourrir les gens dans une grande usine, voilà. Le bonheur, c'est une grande usine. Bon, c'est faux. Maintenant, je crois que de plus en plus, les yeux se dessillent et on voit très bien que la nécessité urgente, c'est les agricultures paysannes. C'est de remettre l'homme au centre de la nature. C'est au lieu d'enlever les agriculteurs, comme on l'a fait dans une hémorragie silencieuse qui a duré, qui dure encore, puisque je crois qu'à l'heure actuelle en France, c'est encore une ferme, une exploitation agricole qui disparaît toutes les 23 minutes. Si je suis aussi précis, c'est parce que ce sont les chiffres du ministère de l'Agriculture. Mais pendant 40 ans, il y a 11 millions de paysans qui sont passés à la trappe, 11 millions d'acteurs ruraux. On perdait une exploitation tous les quarts d'heure. Puisque le phénomène n'est pas qu'en France, hein, il est en Europe, il est dans le monde entier. Si je prends l'Europe, alors là, c'est une exploitation toutes les deux minutes qui disparaît. Ouais. Donc, vous comprenez bien qu'on ne peut pas, aux enjeux, aux défis qui nous attendent, ne serait-ce que pour préserver nos ressources, l'environnement, le climat, éliminer les agriculteurs et s'amuser avec des molécules chimiques dans les champs et dans l'alimentation. Sans parler des conséquences sur la santé, bien entendu. Donc voilà, on a tout faux. Et il faut tout reprendre à zéro, ce que me disaient mes professeurs il y a maintenant une quarantaine d'années, ce qui m'a ramené vers l'agriculture biologique, en disant on s'est trompé sur toute la ligne, il faut qu'on réapprenne tout le contraire de ce qu'on a appris. Ça m'allait très bien comme raisonnement. Voilà.
Bon, je crois que le message est bien passé. Un autre argument qui revient souvent, c'est de toute façon, tout est pollué, l'eau, l'air, la terre, les produits ne sont donc pas totalement bio, alors à quoi ça sert ?
Alors là, j'ai envie de rigoler. Je dis à ces gens-là, en fait, vous êtes pour achever les blessés au bord des routes, vous. Nous, on prend l'environnement dans l'état où il est, on essaie de l'améliorer. On n'est pas responsable du mal qu'a fait une certaine agriculture sur cet environnement. Là, ça me met réellement en colère quand j'entends ce genre de malhonnêteté ou de démagogie. C'est exactement comme si on voulait abandonner les blessés au bord des routes. On dit, bah oui, parce qu'ils sont blessés, il n'y a plus rien à faire, on continue, quoi. C'est stupide.
Bon.
C'est ma réponse.
Là aussi, le message est bien passé. Alors maintenant.
Je ne sais pas, mais c'est mon message.
concernant le centre de formation bio de Sainte-Marthe, qui existe depuis 1993, vous avez récemment fait entrer la permaculture dans le cycle de formation de Sainte-Marthe. Pourquoi ?
Oui. Ben, c'est-à-dire que. La permaculture est devenue un enjeu et en même temps, non, une mode ce serait la rabaisser en parlant d'une mode. C'est pas une mode, c'est vraiment une découverte. Lorsqu'on a fait le tour de l'agriculture biologique, on s'est rendu compte qu'il fallait aller plus loin dans les raisonnements systémiques parce qu'en fait, l'agriculture, la permaculture, c'est une agriculture systémique, c'est-à-dire que c'est un système. Ça va de l'agronomie à la philosophie. C'est concevoir des systèmes, par exemple, même dans les habitats humains et les systèmes agricoles, mais cela peut être appliqué à n'importe quel système en s'inspirant d'écologie, en s'inspirant aussi du biomimétisme. Voilà un mot qui apparaît, qui est devenu une nouvelle discipline dans les universités, notamment à Harvard aux États-Unis. Bon, toutes ces formes, ces histoires qu'on raconte, on se raconte des histoires. On a besoin de comprendre où on est, de comprendre ce qu'on fait, de comprendre comment on avance. Et effectivement, on crée des images et des technologies qui correspondent le mieux aux besoins et à la sécurité des populations sur la planète. C'est comme ça que je vois la permaculture. C'est une agriculture permanente, mais c'est aussi un art de vivre. Ça va plus loin que l'agriculture. Ça va dans le respect à la fois des distances et des saisons. C'est voilà, la permaculture, c'est comment être autonome et comment instituer un système durable pour que nous-mêmes, nos enfants et les enfants de nos enfants puissent profiter de la vie comme nous en avons profité sur cette très belle terre.
Oui, je crois que vous avez bien compris la philosophie, la démarche de la permaculture. Vous parliez tout à l'heure de certaines personnes qui considèrent la permaculture comme un phénomène de mode. Et comme pour l'agriculture biologique, il y a toujours des détracteurs, des gens pour dire des choses comme ça, ou que c'est pour les bobos, ou que c'est réservé aux jardiniers, et pas aux professionnels. Alors, qu'en pensez-vous au niveau des professionnels ?
Eh bien, je dirais que les professionnels, comme ils ont tout à refaire et tout à réapprendre, ils ont intérêt à se calquer sur le génie empirique des amateurs et des jardiniers, qui, eux, spontanément, ont pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes, je dirais, de l'urgence, de toutes les urgences qui nous affligent. Les urgences, pour moi, c'est la terre qui se meurt, c'est les forêts qui disparaissent, c'est les abeilles qui s'effondrent, c'est les territoires contaminés, c'est les ressources en eau polluées, c'est les ressources en eau qui sont polluées. La biodiversité des espèces en voie d'extinction, le climat qui se dégrade, et au final, toute la vie sur Terre qui est menacée. C'est, pour moi, ce sont les urgences de notre époque, et on vient seulement d'en prendre conscience de manière accrue. Alors que depuis maintenant 30, 40 ans, depuis que les mouvements écologiques se sont levés, après d'ailleurs ce qui est un phénomène qu'on doit rappeler, c'est que la plupart des mouvements d'écologie, de protection de la nature, d'agriculture biologique, sont devenus intenses en tout cas, après le premier pas de l'homme sur la Lune, parce que ce premier pas nous a permis de voir notre petite Terre, petite planète bleue, fragile, perdue au milieu de l'univers, et on a bien compris qu'on était seul et qu'on n'en avait qu'une seule Terre. Et je pense que là, il y a eu ce phénomène de révélation qui est l'étymologie de l'apocalypse d'ailleurs. On dira à la fin des temps, il y a l'apocalypse. L'apocalypse, c'est pas un drame, forcément un drame, c'est une découverte, une révélation. Et là, je crois que ça prend tout son sens. Tous ces millénaristes, tous ces gens qui annonçaient la fin du monde par l'apocalypse, en fait, ils ont raison de dire que nous avons passé l'apocalypse, ou que nous sommes dans une époque d'apocalypse, parce que nous comprenons, nous avons conscience de tout ce qui nous entoure, nous prenons conscience de l'importance du monde dans lequel nous sommes et de la nécessité de préserver au plus vite.
Oui, il n'y a pas de planète de rechange, ça, vous avez bien raison. Et concernant les professionnels, il y a un très bel exemple, c'est celui de la ville d'Albi, qui s'est lancée dans un challenge qui vise à l'autosuffisance alimentaire en 2020. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cet
exemple. Les incroyables comestibles.
Oui, avec les incroyables comestibles, voilà, justement. Et donc, ils ont préempté des terrains et lancé un appel d'offres. Et donc, il y a 8 permaculteurs qui ont répondu à cet appel et qui vont s'installer autour de la ville d'Albi pour essayer d'atteindre cet objectif.
Je connais très bien, puisque je connais les gens qui sont à l'origine de ce projet, qui m'ont demandé d'ailleurs de les aider, de participer. D'accord. Ce que j'ai fait d'ailleurs en envoyant des graines, parce que dans le programme Graines de Vie, Notre objectif est de créer un tsunami de jardiniers pour contrecarrer les plans maléfiques de Monsanto. Donc on va faire un... Puisqu'on peut plus échanger correctement, enfin normalement les semences qui a accompagné l'évolution de l'humanité depuis qu'elle existe, eh bien nous allons les donner. Nous les donnons et grâce à un mécénat, grâce à un crowdfunding qui a magnifiquement réussi, on forme, on avait encore ce week-end là, à la ferme de Sainte-Marthe, un groupe de stagiaires qui viennent et on leur apprend gratuitement à reproduire les semences parce que finalement c'est plus facile qu'on croit de reproduire les semences, ça pousse tout seul les graines. Donc il faut arrêter d'avoir peur et de croire que seuls des spécialistes et des techniciens peuvent reproduire la nature. On peut le faire tous et on a même intérêt à le faire tous pour retrouver sa liberté et sa dignité.
Exactement. Sur le site de Radio Pont et sur le mien, on mettra toutes les coordonnées pour tout ce dont on a parlé, bien sûr, pour les gens que ça intéresse.
Oui.
Un grand, grand merci, Philippe Desbrosses, d'avoir participé à cette chronique pour les auditeurs de Radio Pont. J'ai envie de dire que la résistance et le combat, mais aussi la sensibilisation continue. Merci pour tout ce que vous faites.
Merci à vous de m'avoir invité, parce que ça me permet de m'exprimer. Puis de toute façon, je suppose que vous partagez en partie mon travail ou mes objectifs.
Bien sûr, plus qu'en partie, Philippe.
Merci beaucoup, Ludovic.
Merci à vous. À bientôt, Philippe.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. Comme vous l'aurez compris, cette culture permanente ou permaculture, résonne en nous de toutes parts. Finalement, il faut prendre le mot « culture » de permaculture, non pas seulement au sens agricole, mais bien au sens de la culture en général. La permaculture propose une véritable « culture » au sens sociologique du terme, soit quelque chose qui est commun à un groupe d'individus, qui le soude. Tout le monde peut se l'approprier, quelle que soit sa condition sociale. Elle n'a ni couleur, ni odeur, on ne peut pas la toucher, mais elle est universelle et représente une, et je ne dis pas la, mais bien une solution pour les générations futures, et cela participe aussi au formidable potentiel de la permaculture. Notre civilisation contemporaine est bien malade et sur une phase de déclin certain. À l'incertitude du futur s'ajoute maintenant et de plus en plus l'incertitude du présent. Économiquement, socialement, politiquement, la confiance a disparu. Et il est grand temps de repenser nos comportements. Restaurer la confiance en soi et envers les autres, c'est la promesse que propose la permaculture. Mais pour cela, souvenons-nous et appliquons la citation d'Albert Einstein « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré ». L'agenda maintenant, avec quelques dates pour ce mois de juillet. Le 6 juillet, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'interview avec Laurent Daguet pour « Les incroyables comestibles », ce sera la réunion collective des incroyables comestibles de Sainte. Rendez-vous donc au jardin public sous le kiosque à 18h30. Si vous souhaitez rejoindre le collectif, n'hésitez pas, il n'est jamais trop tard. Le 7 juillet, l'association Les Jardins Respectueux organise leur première soirée pizza au jardin de la saison. C'est l'occasion de découvrir le lieu dans un moment d'échange et de partage autour des herbes bonnes ou mauvaises du jardin. Ça se passe à Château-Bernard, en Charente, à partir de 18h30. Attention, réservation obligatoire. Enfin, tous les week-ends ou presque, vous pouvez participer aux journées d'initiation à la permaculture que j'organise sur les deux terrains dont je dispose pour les formations à la permaculture, à Sainte et à Saint-Just-Luzac, près de Marennes. Vous pouvez également vous inscrire aux formations pour apprendre à créer votre jardin en permaculture. Toutes les informations sur le www.permacultureconseil.com. N'hésitez pas à consulter le site de Radio Pont ou à contacter la radio pour plus de renseignements. Faites-moi part également de vos événements en lien avec la permaculture pour que je les annonce à l'antenne. Côté livres et vidéos maintenant. Quelques livres de référence pour approfondir cette rapide introduction à la permaculture. Alors bien sûr, les deux livres fondateurs, des deux concepteurs de la permaculture, Bill Mollison et David Holmgren, intitulé « Permaculture 1 et 2 » et sous-titré « Une agriculture pérenne pour l'autosuffisance et les exploitations de toute taille ». C'est aux éditions Charles Corlay. Ensuite, pour les jardiniers, le guide de la permaculture au jardin pour une abondance naturelle. C'est écrit par Karine Maillot aux éditions Terre Vivante. C'est un ouvrage très bien documenté qui répertorie beaucoup de techniques applicables dans un jardin, grand ou petit. La permaculture dans un petit jardin, Créer un jardin autosuffisant, de Kurt Foster, aux éditions Ulmer. Kurt Foster nous propose la description de sa propriété sur 700 mètres carrés, dont 500 mètres carrés cultivés, qui lui permet d'avoir une autosuffisance alimentaire pour une famille de 4 personnes. Enfin, un dernier livre, « La révolution d'un seul brin de paille, une introduction à l'agriculture sauvage » de Masanobu Fukuoka, un agriculteur japonais. Ce livre ne parle pas directement de permaculture, mais il a testé une forme d'agriculture sauvage, comme il l'appelle, c'est-à-dire avec le moins d'interventions possibles, humaines comme mécaniques. Et ce livre a participé à la fondation du mouvement de la permaculture. Côté vidéo, sorti en DVD du film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent, César 2016 du meilleur film documentaire. Ce film n'est pas non plus consacré totalement à la permaculture. Il relate différentes solutions alternatives à notre monde d'aujourd'hui, et notamment avec un chapitre concernant la permaculture. Nous voici donc arrivés au terme de cette première chronique de Permaculture, Jardin et compagnie. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter Radio Pont, qui me fera suivre toutes vos questions. Je vous donne rendez-vous en septembre. Et oui, à peine la chronique commencée et déjà en vacances. Pas de chronique en août. Rendez-vous donc en septembre et d'ici là, mettez de la permaculture dans votre existence.
Une tech de ouf, inspirée de la nature. Insulte pas la terre, mec c'est ma mère. Observe-la bien, jamais plus t'auras faim. La paille et la forêt ont été mises dans le coup.
La petite musique qui nous a accompagnés à plusieurs moments de cette chronique est de Pangfit, Monkey Mix. Ça s'appelle Les Potagers. Et on va finir avec ça tranquillement.
Pas de pesticides, ni engrais chimiques, non. Pas de tracteur, ici on a des bourriques. Si tu fais ta bête ou ton petit marrant, ici tu pousses des bêtes et des potimarrants. Yo,
c'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qu'il fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde s'accarate et tout le monde sans poireau. Personne qui est poireau, personne qui reste au carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qu'il fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde sans cochon et tout le monde sans poney. Et même sans arbre, personne ne reste sur le côté.
TSP, mais ça c'est quoi? Mais boy, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. TSP, mais ça c'est quoi? Attends, je vais t'expliquer le mode d'emploi. TSP, c'est le toilette sèche power. On chie pas dans le bois, mais dans la sueur de bois. TSP, c'est le toilette sèche power. On a fait le choix de plus gaspiller ta quoi. TSP, c'est le toilette sèche power. Tu vis ça dans un coin et tu verras, ça sent même pas. Étape 1, t'arrêtes les couches et tu passes au pot. Étape 2, tu montes sur le trône, c'est déjà bien haut. Étape 3, tu t'essuies tout seul, tu tires la chasse d'eau. Étape 4, t'arrêtes la chasse et t'adoptes le saut. Le caca dans l'eau, c'est fini. Le plouf, c'est fini. Les fesses brouillées, c'est fini. Les Africains aiment ça aussi. En Asie, on l'a choisi. Au Maroc, tout le monde dit oui. À la campagne, à Paris, tout le monde l'apprécie. Si t'es dans ce caca, 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 alors rejoins le toilette sèche pour moi.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde sans carotte et tout le monde sans poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde sans cochon et tout le monde sans poney. Et même sans avant, personne ne reste sur le côté.
Hey yo, peigne dans ta gueule, oui on sait recycler. Nous on mixe du tilleul et on bombe dans les prés. Je représente mon verger que j'ai gagné au tiers. C'est trop cool pour rien branler, mais j'étais affamé. Alors j'ai eu l'idée d'apprendre à labourer. Planter mes poils de carottes et d'en récolter du blé. Pour des raisons alimentaires, je cultive la terre. Me shoot au nucléaire, mec je connais les affaires. Big up aux fruits, aux légumes, aux graines, aux pistils. Maintenant je prends des agrumes comme les dumps de Shaquille. Dimanche pile mon tracteur en mode gangster. La tête à l'envers pour renifler la terre. Peigne dans ta gueule, tu nous as reconnus. Les fermiers sont à genoux et les vaches dévêtues. J'en place une pour mon crew, les pesticides sauvages. On rajoute du goût, fais passer le message.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde sans carotte et tout le monde sans poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait kiffer être à Walpé?
Tout le monde sans cochon et tout le monde sans poney. Et même sans arbre, personne ne reste sur le côté.
Yo, bang, bang, monkey mix, MC Renadir, MC Click 2012, yo, ya, Bruxelles, Belgique.